I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Radio Grand Ciel. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ce jardin de parole. Prenez place, thé, café. Qui est notre invité aujourd'hui? Jacqueline de Romilly. Le nom vous rappelle quelque chose? Bien sûr, une place de Chartres, à l'angle des rues des Écuyers, de la rue du Bourg et de la rue Saint-Aimant. Cette place porte son nom. Pourquoi? Parce que Jacqueline de Romilly est née à Chartres en 1913. Mais qui est-elle? Ah, beaucoup de choses. Elle était philologue, essayiste, traductrice, helléniste, romancière, c'est tout? Eh oui, une grande dame. Elle est internationalement connue pour ses travaux sur la civilisation et la langue de la Grèce antique. Elle était aussi académicienne. Je vous laisse découvrir ses nombreux ouvrages dans les librairies de Chartres ou d'ailleurs. Pour l'heure, nous allons écouter deux chroniques qu'elle a rédigées à la demande d'un ami, André Giovanni. Cet ami était directeur de la revue Santé Magazine. Il lui a demandé d'écrire des chroniques sur les mots qu'elle a intitulées « Santé de la langue française ». Alors, ces chroniques ont été publiées sous le titre « Dans le jardin des mots ». Alors, vous reconnaissez qu'elles méritent bien leur place, ces chroniques, dans notre jardin de parole. Mais laissons-lui la parole. Contre l'enflure des mots. La langue que nous parlons, que nous avons apprise depuis notre enfance et qui se parle depuis des siècles, celle qui nous sert à nous exprimer dans notre vie de tous les jours, peut être plus ou moins bien portante. Si elle va mal, notre pensée, notre vie quotidienne en seront modifiées. Mais inversement, il dépend de nous. Il dépend de chacun de nous qu'elle aille mieux ou moins bien, car nous sommes tous porteurs de virus et la contagion est grande. Parmi ces menaces, j'en distinguerai au seuil de cet article... Parmi ces menaces, j'en distinguerai au seuil de cette série d'articles deux qui semblent à première vue presque contraires. L'une représente un alourdissement, un épaississement et comme le développement rapide de cellules indésirables. L'autre représente une faiblesse comparable à celle qui peut atteindre nos muscles ou l'activité de nos sens et nous rend alors inaptes à une démarche précise et efficace. Commençons aujourd'hui par la première. À chaque jour suffit sa peine. Peu à peu, des mots viennent envahir notre langage comme des corps étrangers, terriblement encombrants. Écoutez seulement autour de vous et la comédie commence. C'est, je l'avoue, dans un écrit un peu technique que j'ai buté la première fois sur le mot « opérationnalisation ». Oui, opérer. Oui, opération, bon. Opérationnel, peut-être. Mais ensuite, on voit l'excroissance monstrueuse et ces 8 syllabes qui nous étourdissent. Et puis la prétention sort vite du domaine technique et c'est à qui limitera le mieux. Cela commence innocemment. On me demande, non pas mes mesures, mais mes mensurations. J'ouvre la radio et j'entends qu'un personnage, que j'aurais dit simplement égoïste, souffre d'une hypertrophie de l'ego. On collecte des questions en vue d'un forum ou d'un symposium. Et très vite, l'on invente des mots. Au lieu d'aimer son prochain, on dit, je l'ai entendu, sociabiliser ses sentiments. À notre insu, autour de nous, le chancre gagne. Et si c'est un peu obscur, tant mieux. Cela fait savant et n'engage personne. Ainsi, quand on me dit qu'une jeunesse montre des sentiments positifs, faut-il comprendre qu'elle est favorable à telle ou telle idée ? Ou bien que l'on peut se féliciter des sentiments qu'elle éprouve. Le pédantisme est en général le paravent de l'ignorance ou de l'imprécision dans la pensée. Et pourtant, quelle élégance et quelle souplesse dans les formulations simples dont les grands auteurs savent se contenter. Pour me remettre d'une émission où j'avais recueilli ces exemples, j'ai relu sur cassette Bérénice de Racine. Et j'ai été éblouie de voir par quels mots tout simples le héros décrivait la surprise toujours renouvelée de revoir l'être aimé. Depuis 5 ans entiers, chaque jour je la vois et crois toujours la voir pour la première fois. Je sais bien que les mots sont portés par le mouvement du vers, mais pouvait-on exprimer le sentiment avec des mots plus naturels, qui n'ont qu'une ou 2 syllabes? Je crois bien que, comme hygiène, pour nous défendre contre ce premier virus, le retour à ces textes, où la langue était respectée, est un peu comme un séjour à la montagne, où l'on respire de l'air pur et où l'on se refait une santé. Septembre 1998. Commençons par le commencement. La langue française est si fine et si nuancée que l'on peut s'en émerveiller presque à propos de chaque mot. Je tenterai de le montrer aujourd'hui pour une idée qui semble avoir indéfiniment... Je l'ai dit correctement en plus, non ? Indéfiniment suggéré des possibilités aux Français et en suggéré peut-être un peu trop actuellement. C'est l'idée de commencer. Si l'on réfléchit à la variété des mots qui, en français, peuvent exprimer cette idée, on s'aperçoit vite que ces mots se sont multipliés grâce à des images, ou plus exactement grâce à des métaphores, c'est-à-dire grâce à ce procédé qui permet d'appliquer à une notion, à un objet, un terme qui correspond à un autre. Si je dis « il est malin », comme un renard, c'est une comparaison. Si je dis « cet homme est un renard », c'est une métaphore. Et peu à peu, ces emplois imagés peuvent tendre à remplacer les termes simples, connus dès l'origine. Dans certains cas, cet emploi imagé finit par être complètement perdu de vue. C'est ainsi qu'au lieu de « commencer », on peut dire « débuter ». Du moins, quand il n'y a pas de complément. Mais personne aujourd'hui ne songe qu'il y a dans ce mot le souvenir d'une boule que l'on écarte du but. Au contraire, quand on dit aborder une question, aborder un sujet, il reste le souvenir d'un navire qui approche d'une côte et la découvre. Dans ce cas, il est souhaitable de garder l'image à l'esprit quand on choisit parmi les divers mots. On peut parler d'un océan de difficultés, mais pas de l'aborder. De même, il est souhaitable de garder les nuances de sens. Entamer suggérera toujours un tout dont on prélève une partie. On entame une longue discussion, pas une brève pause. Inaugurer impliquera toujours quelque solennité et instaurer quelque chose qui ressemble à une institution. Et je ne parle pas de ouvrir, se mettre à, se lancer dans, etc. Tous ces termes ne devraient pas être employés au hasard. La même prudence vaut pour les mots nouveaux. Il y a par exemple « initié » qui est fort à la mode. Le mot est bon pour dire « commencer ». C'était son sens premier. C'est celui que l'on retrouve dans « initiative » ou dans « initial ». Mais il se trouve qu'en français, le mot a été longtemps chargé d'une nuance religieuse très particulière. Il s'agissait d'entrer au nombre de ceux qui connaissaient les mystères religieux, ou bien de ceux qui étaient introduits à des connaissances que l'on pouvait comparer à ces mystères religieux. On était initié à une religion, voire initié au latin. Mais même dans ce dernier exemple, la coloration religieuse subsistait vaguement. C'est pourquoi il est gênant de voir employer tout à coup le mot avec un complément d'objet direct, dans le simple sens de commencer. Et il est gênant d'entendre des formules comme « initier un débat » ou « initier une compétition ». L'autre exemple est pire. Il s'agit du verbe « démarrer ». Ce mot, lui, est emprunté au vocabulaire des moteurs et des voitures. Très bien, pourquoi pas ? Simplement parce qu'on ne dit pas « je démarre ma voiture ». On dit « ma voiture démarre », »,« mon moteur démarre » ou « je fais démarrer ma voiture ». C'est donc au prix d'une faute de grammaire que l'on transporte ce terme, qui peut-être ne le méritait pas, pour employer des formules comme « démarrer une action », »,« démarrer une nouvelle politique ». Il y a pourtant, on l'aura vu, assez d'expressions concrètes pour exprimer la même idée. Mais puisque surgit ici la grammaire, on peut ajouter quelques mots sur la construction du verbe « commencer ». Il y a en effet deux constructions possibles. Si l'on dit « commencer à », il s'agit d'une action qui va se poursuivre. Si au contraire on dit « commencer par », cela indique que ce début va s'opposer à la suite. Commencer à parler veut dire que l'on va continuer à parler. Au contraire, il commença par dire non, veut dire qu'ensuite il a fini par dire oui. Ces deux constructions aboutissent donc à des sens opposés. Or, on les confond parfois. Ah, les petits mots du français, quel soin il faut en prendre si l'on veut être compris. Des fines nuances au vrai contresens, tout se tient. Mai 1999. Nous écouterons d'autres articles, d'autres rubriques écrites par Jacqueline de Romilly pour le magazine de la santé plus tard dans l'année. Pour l'instant, je vous abandonne. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt pour un nouveau jardin de paroles. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice,